Le procès. Chapitre 1. On trouvait dans les profondeurs du lac Shakespeare l'entrée d'un tunnel qui passait sous Beauvois et débouchait hors de l'enceinte de l'habitat terrestre. Lors de la conception du Nouvel Éden, Richard avait insisté pour que la colonie fût dotée d'une issue de secours.
Dans quel but ?
Lui avait demandé l'aigle.
Je l'ignore, mais il faut prévoir l'imprévisible.
Il nageait à l'intérieur du passage immergé et vérifiait sa réserve d'air à intervalles réguliers. Finalement, il franchit une série de sas et se retrouva au sec dans un souterrain. Il le suivit sur une centaine de mètres avant de se débarrasser du matériel de plongée. Lorsqu'il atteignit la sortie, à la bordure est du secteur de la plaine centrale contenant les deux habitats, il prit une veste thermique dans son sac étanche. Nul ne pouvait savoir où il était, mais ce fut malgré tout avec d'infinies précautions qu'il souleva la trappe circulaire du plafond, puis se hissa à l'extérieur.
Jusqu'à présent tout est parfait, se dit-il. Passons à la deuxième partie de mon plan.
Il resta 4 jours dans cette zone. Ses jumelles lui permettaient de surveiller l'activité autour du centre de contrôle, la région d'Avalon et le site de sondage. Comme il l'avait prévu, des hommes firent de nombreuses patrouilles entre les deux habitats, mais il les esquiva sans peine. Il s'accoutumait à la pénombre de la plaine centrale, atténuée par la lumière qui se réfléchissait sur la paroi opposée du vaisseau. Il déduisit que cette clarté provenait de l'hémicylindre sud. Il regrettait de ne pas avoir des ailes qui lui auraient permis de franchir la muraille et de se déplacer librement à l'intérieur de l'immense nef. Y avait-il toujours une mer cylindrique au-delà de cette barrière? Les tours de New York se dressaient-elles encore sur son île centrale? Et que trouvait-on dans l'hémicylindre sud, bien plus vaste que la plaine où il se situait? Le 5e jour, Richard se dirigea vers ce qu'il appelait le microcosme des aviens. Il avait entre-temps inversé son cycle de sommeil et les techniciens avaient dû interrompre leurs travaux au site de sondage. À 500 mètres de l'ouverture, pratiquée dans le mur du second habitat, il s'arrêta et prit ses jumelles pour s'assurer que les lieux étaient déserts. Puis il envoya Falstaff distraire l'attention de la biote de faction. Après avoir reporté les dimensions du passage sur le sol de son cabinet de travail, il s'était convaincu qu'il pourrait ramper dans ce boyau de 80 cm de côté. Mais que ferait-il s'il se rétrécissait par endroits?
« Je serai bientôt fixé », se dit-il en approchant.
Falstaff avait mené à bien sa mission. La gardienne n'était visible nulle part. Seuls quelques câbles et appareils divers encombraient l'ouverture, et il la dégagea. Puis il lança son sac dans le passage et tenta de s'y glisser. En vain. Il retira sa veste, sa chemise, son pantalon et ses chaussures, qu'il plaça dans son sac. En sous-vêtements, il réussit à entrer et se mit à ramper. Sa progression était lente. Il glissait sur le ventre en se propulsant avec ses mains et ses coudes et en poussant ses affaires devant lui. Les aspérités des parois les raflaient à chaque mouvement. Il s'immobilisa, les muscles déjà douloureux, après n'avoir parcouru qu'une 15aine de mètres, guère plus du quart de la longueur totale du tunnel. Pendant qu'il prenait un peu de repos, il remarqua que ses avant-bras, ses genoux et même son cuir chevelu dégarni était à vif. Ouvrir son sac pour y prendre des pansements était hors de question. Le simple fait de basculer sur le dos pour regarder derrière lui relevait de l'exploit, tant ce boyau était exigu. Et il souffrait du froid. Réchauffé jusqu'à présent par l'exercice physique, il était désormais glacé. Le fait d'être couché à moitié nu sur une surface métallique n'arrangeait rien et il claquait des dents. Il repartit et rampa lentement pendant un quart d'heure. Puis, les lancements d'une crampe dans la hanche droite le fit sursauter et sa tête percuta le plafond.
Étourdi, il s'inquiéta de voir du sang goûter de son crâne. Il ne discernait pas la moindre lueur. Il passa sur le dos pour regarder derrière lui. Tout était obscur et la froidure le torturait. Il tâta le sommet de sa tête pour déterminer l'importance de l'entaille et paniqua en constatant que ses doigts étaient poisseux. Il n'était pas claustrophobe, mais coincé dans cet étroit boyau, il avait l'impression de suffoquer. Il lui semblait que les parois allaient se refermer sur lui, et il hurla. Moins de 30 secondes plus tard, le faisceau d'une lampe brillait derrière lui. Il reconnut l'accent d'une Garcia, sans toutefois saisir le sens de ses propos. « Elle va envoyer un rapport. J'ai intérêt à ne pas moisir ici. » Il fit abstraction de sa fatigue, de son cuir chevelu ensanglanté, de ses genoux et ses coudes à vif, et il repartit. Il ne devait lui rester que 10 mètres à parcourir, 15 au maximum, lorsqu'il remarqua que le tunnel se rétrécissait. Il ne pouvait plus avancer. Tous ses efforts étaient inutiles. Coincé, il chercha une position qui lui permettrait d'occuper un volume moins important. Ce fut alors qu'il entendit de légers crépitements du côté de l'habitat avien, des sons qui s'amplifiaient. Sa terreur ne s'estompa que lorsqu'il comprit que les picotements perçus sur tout son corps étaient dus à des faucheux, ces petites créatures sphériques d'environ 2 centimètres de diamètre, dotées de 6 longues pattes symétriques. Il en avait une sur son visage, et il manqua s'assommer en secouant la tête pour la faire tomber. Il se tortilla comme un ver, ce qui lui permit de progresser par la même occasion. Il atteignait le couloir annulaire de l'autre habitat quand il entendit crier.
« Hé ! Y a quelqu'un là-dedans ? Qui que vous soyez, identifiez-vous ! Nous sommes venus vous aider !»
Un projecteur illumina le passage. Richard avait un nouveau problème. Le tunnel débouchait à 1 mètre du sol.
« Je le savais. J'aurais dû ramper à reculons », se reprocha-t-il. « Et tirer mes affaires derrière moi au lieu de les pousser. »
Il était trop tard pour y remédier. Il fit tomber son sac et poursuivit sa reptation. Quand il se sentit basculer en avant, il croisa les mains derrière sa nuque, rentra son menton et se roula en boule. Les faucheux se dispersèrent dans les ténèbres. Après s'être assuré qu'il n'était pas blessé, Richard récupéra son sac puis s'éloigna en clopinant. À 200 mètres sur la gauche, il s'arrêta sous l'ouverture que le prince Hal avait atteinte peu avant sa capture. En dépit de son épuisement, Richard entama l'escalade de la paroi abrupte sitôt après avoir remis ses vêtements et soigné sommairement ses égratignures. Il voulait disparaître avant l'arrivée d'une caméra télécommandée. Il poussa un soupir de soulagement en découvrant qu'il pourrait s'asseoir sur le rebord de l'ouverture circulaire pour forcer le grillage. Il fut étonné de constater que les faucheux ne revenaient pas. Il ne voyait et n'entendait rien à l'intérieur de l'habitat. Il essaya à 2 reprises de joindre le prince Hal par radio et ses appels restèrent sans réponse. Il scruta l'obscurité profonde qui régnait dans le monde des aviens. L'atmosphère devait avoir la même composition que dans l'anneau, étant donné que l'air circulait librement. Il allait utiliser sa lampe pour éclairer l'autre côté quand il entendit des bruits derrière lui. Quelques secondes plus tard, un faisceau lumineux balayait le sol, loin en contrebas. Il se colla au grillage pour ne pas être vu. C'est une caméra télécommandée, mais son rayon d'action est limité. Ces appareils ne peuvent fonctionner sans leur câble. Il resta immobile. Que vais-je faire à présent ? Se demanda-t-il en constatant que le projecteur était désormais braqué sur un secteur situé à l'aplomb du point où il se trouvait. Ils ont dû repérer quelque chose. Si j'utilise ma lampe et qu'ils remarquent ces reflets, ils sauront immédiatement où je suis. Il lâcha un petit objet dans l'habitat des aviens afin de s'assurer que son sol se situait au même niveau que celui du couloir annulaire. Pas un bruit. Il fit un 2e essai, sans plus de résultats.
Son cœur s'emballa. Le royaume des aviens était donc bien plus bas. L'épaisseur de la coque de Rama autorisait des dénivellations de plusieurs centaines de mètres. Il se tourna pour regarder sous lui. La caméra n'avait pas bougé. Richard supposa que quelque chose avait dû tomber de son sac. Il imagina sa capture et son retour dans le Nouvel Éden. Il ignorait quelle loi il venait d'enfreindre, mais il savait qu'il aurait de sérieux ennuis. La perspective de passer des mois, voire des années en prison, le fit bouillir de colère.
« Tout n'est pas ça »,
décida-t-il. Il se pencha pour tâter la paroi interne de l'habitat à la recherche de prises. Après avoir obtenu la confirmation qu'il pourrait descendre, il prit dans son sac une corde et l'attacha aux fixations du grillage. « À titre de précaution », se dit-il. Une deuxième source de lumière éclairait l'anneau. Richard enjamba le seuil après avoir noué le filin autour de sa taille. Il ne descendait pas en rappel et utilisait simplement la corde pour se retenir pendant qu'il cherchait des prises à tâtons dans l'obscurité. Arrivé 60 ou 70 mètres plus bas que son point de départ, il s'arrêta et prit sa lampe torche. Ce qu'elle lui révéla ne le rassura pas. Le sol restait invisible. Une cinquantaine de mètres en contrebas, tout était diffus, perdu dans un nuage ou une nappe de brouillard. Lorsqu'il atteignit l'extrémité de la corde, l'humidité de la brume le pénétrait et il se sentait très las. Il remonta de quelques mètres, enroula le filin autour de sa taille et s'endormit en position verticale, suspendu contre la falaise.